monde, bienvenue à ce cinquième terrain basique. Mon nom est Tommy Godette, fan de Magic the Gathering, comme vous, si vous écoutez ce podcast 100% Magic. Et la trame sonore que vous entendez a été choisie cette semaine par notre bon ami Jason Keys. Salut Jason.
Bien bonjour.
Comment ça se passe sur ton bord?
Ça se passe très bien. Écoute, on est rendu à l'épisode 5, là.
Ça va vite, hein?
Une semaine.
Ben oui. Puis, avant d'aller parler à Andy, oui, et le saluer bien bas, je veux que tu nous parles de la trame sonore qu'on est en train d'écouter, celle de...
La trame sonore, c'est de jeu Tyrian, sorti en 1998. Un jeu PC.
OK.
C'est un scroll shooter, si vous avez déjà joué à 1941 sur le NES. Ah, bref, c'est un avion vu dessus.
Oui, les petits jeux de vaisseau.
Ouais.
Avec plein de power-up.
Bref, ce jeu-là n'a aucune qualité autre que sa trame sonore.
OK.
Écoute, sa trame sonore est tellement bonne que tu peux la jouer dans je sais plus lequel des Guitar Hero.
OK. OK. Donc,
ça, c'est, ça point, là.
C'est un classique qu'on vous offre à terrain basique pour que vous soyez bien occupé ou en fait confortablement équipé pour nous écouter parler de Magic. Toi, Andy, ça se passe bien?
Oui.
Andy Jacques à la technique, fier et droit.
J'ai rien d'autre à rajouter.
D'ailleurs, je pense que tu parleras pas beaucoup, si j'ai bien compris, pour notre premier sujet plus intime qui commence cette émission. On veut parler des personnages préférés qu'on a dans Magic the Gathering. Je me rappelle, moi, dans le temps, j'ai lu un article. Je me rappelle pas qui était cité dans l'article, mais il disait que si, mettons, il y avait un film de Magic the Gathering à faire, il y avait pas de Mickey Mouse ou de Donald Duck dans Magic the Gathering. Mm-hmm. Il y avait comme pas de personnalité plus importante que d'autres. Et c'était au tournant 2010, je pense. Et là, c'est là qu'ils ont comme décidé à mettre l'emphase sur certaines personnalités. Peut-être à développer la diégèse du jeu en accent sur certains personnages qui ont été développés. Notamment, mon préféré à moi, je te dirais, c'est le deuxième deck que j'ai fait de toute ma vie. Était entièrement basé sur sortir Nicole Beaulah. À l'époque,
le
c'était...
Le Paywalker.
Non. Le premier deck que j'ai fait,
ouais, le
deuxième.
Okay,
on est en 1996. Là. Oh. Ouais, c'est ça. C'était un dragon 7-7 flying qui coûtait 8 à sortir.
Dont 2 rouges, 2 noirs, 2 bleus.
Ouais. 2 bleus,
très
voilà.
Très dur à
caster. Très difficile. Ouais. Et qu'il y avait un upkeep de 1 bleu, 1 noir, 1 rouge. Mm-hmm. Et c'est un 7-7 flying que quand il faisait son dommage à un joueur, le joueur jetait sa main. Et ça, j'ai appris par la suite que c'était un pouvoir que Nicole Beaulah, le Elder Dragon, avait trouvé en lisant un livre. Et oui, à partir de là, il est devenu comme maudit. Et tout ce qui touchait, ça lui faisait effacer la mémoire du monde qui touchait. Oui. Ce qui est quand même une malédiction assez chiante.
Dans le set de légende, il y a 5 pour chaque couleur.
Ouais.
Il y a un Elder Dragon.
C'est ça.
Chaque Elder Dragon a l'air d'un dragon badass. Sauf le gars qui s'appelle... Nicole. Comment t'as dit ça tantôt, Andy? Il s'appelle Nicole.
Le gros méchant s'appelle
ouais,
Nicole.
Mais non seulement il s'appelle Nicole, mais en plus, le artwork sur la carte, il lit un livre.
Ouais,
il
est assis dans une bibliothèque.
Il est assis dans une bibliothèque, c'est le dragon intello. Puis à partir de
c'est
ça...
C'est le nerd.
Ouais. Puis à partir de ça, ce que tu parles, quelqu'un a commencé à sortir des personnages chantreux, ça c'est...
Ben, axé un petit peu plus.
En 2007-2008, c'est là qu'ils ont ramené Nicole Beaulah, quelqu'un a sorti les cartes des Planeswalkers.
OK.
Tu sais, ils se sont dit, bon, ça nous prend, tu sais, le vilain qui a traversé les siècles, c'est-à-dire des premiers sets, ça nous prend un personnage des premiers sets qui va être comme le vilain derrière tous les complots.
Parce qu'ils ont lancé un dé, en se disant lequel des 5 qu'on va prendre, puis on
va faire. Je pense pas, moi. S'il y avait besoin d'un méchant, ils ont pris le dragon noir. Là.
Ouais.
C'est dans le.
Mais c'était lui le dragon noir?
Ben, c'est parce qu'il est bleu, noir, rouge, bleu. Fait qu'il est entre les deux.
Quand il a été réintroduit en tant que vilain principal, c'est dans le set de Alara. Puis Alara, c'est un plan que chaque couleur a son univers, puis il n'y a pas les autres couleurs dans ce plan-là.
Okay.
Puis Nicole Beaulah, il avait été ramené dans Grixis. Grixis, c'est juste du noir, du bleu, puis du rouge, il n'y a pas les autres couleurs. Puis encore aujourd'hui, quand tu fais un deck rouge, bleu, noir,
c'est Grixis.
C'est Grixis.
Et voilà.
C'est la couleur,
comme, mettons,
c'est
Boros,
la couleur
c'est
de Nicole Beaulah.
Il est Grixis. Ouais. Donc, moi, c'est lui, toi, Andy, ton personnage préféré.
J'en ai pas vraiment. Par contre, quand t'as raconté ton histoire, ça j'ai comme rayonné, parce que je me rappelle, dans le temps, probablement dans le même temps que toi, d'avoir fait un... Parce que, comme j'ai raconté dans la première ou la deuxième épisode, j'avais raconté qu'on faisait des decks monstres de 200, et j'ai fait un deck d'Elder Dragon. Pas un Elder Dragon, un deck d'Elder Dragon.
Oh shit,
hein? Fait que là, il fallait que je casse toutes les couleurs, mais je me...
Hey, puis ça te coûte cher en optique, un goût que c'est là, ça. T'as ça, parlé souvent...
Il a pas marché super gros.
Ben, ouais, c'est difficile. T'as parlé souvent de ton Force of Nature, oui, aussi.
Ça a été mon premier, mais tu sais, par la suite, les Serra Angels, j'ai trouvé comme une espèce de petite appartenance qui
avec les Serra Angels. Un Serra Angel, ça sert à se faire bloquer par une araignée géante sur laquelle on met Giant Growth.
Clairement. Oui, oui, dans
mais
ça,
moi, mon. Je vais embarquer là-dessus parce que c'est un pur radon parce que moi, c'est Serra Angel.
Ton personnage préféré du jeu, ta et carte voilà, le plus.
Regarde. Moi, là, quand j'ai commencé à jouer à Magic. J'ai fait mon premier vrai deck là, que j'ai commencé à gagner des games avec. Là, je jouais 4 Serra Angel dedans.
Ben oui.
Serra Angel, là, puis encore aujourd'hui, ils l'ont ressorti dans Dominaria.
Elle est encore là.
En draft, quand j'ouvrais un booster, puis il y avait Serra Angel dedans, c'est là. Je m'en foutais qu'il y avait la carte de 30 pièces. Je prenais Serra Angel, je bâtissais un deck blanc, puis je gagnais.
Mais dans le temps, il n'y en avait pas une qui était comme plus forte que celle-là. C'était pas un Archangel.
Oui, mais après ça, c'est qu'elle était tellement populaire qu'ils se sont mis à. Tu sais, c'est du branding. Ouais, ils se sont mis à sortir des Angels de plus en plus. Mais le Serra Angel de base, c'est une carte très respectable. 3 colorless. Blanc-blanc pour une flying 4-4
vigilance,
qui ne tape jamais quand elle attaque. Ouais. Aujourd'hui, vigilance, on voit ça partout, la mécanique, mais c'est la première qui avait cette mécanique-là dans la fois.
Tout le temps à l'offre de protéger.
Puis un truc que les gens comprennent pas.
Les gens.
Faut que tu lis sur les légendes de Magic, c'est pas un ange qui s'appelle Serra.
Non, non, c'est un ange de Serra.
Serra est une planeswalker.
Ok.
De faire des personnages, là, c'est un peu la représentation. Elle est faite de mana blanc, elle n'utilise que le blanc. Puis elle a créé un plan qui apparaît dans Urza Saga. Qui est le Serra's Plane.
Okay.
Qui est un univers qui est juste comme. Dans le fond, c'est comme le paradis, là. C'est juste, des anges, tout ça. Puis
c'est blanc, il y a des popsicles. Puis...
Ouais, les cheeseburgers font maigrir.
Moi, Serra Angel a tout le temps été. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le set de Innistrad, parce qu'il y a beaucoup d'anges dans ce set-là.
Ouais, t'aimes les anges.
Le blanc trop fort.
Je pense que ça règle ça pour les personnages préférés pour cette semaine.
Oui.
Écoutez le petit beat que Bond nous a fait. On revient avec la carte de la semaine et cette fois-ci, c'est Jason qui l'a choisi.
Pour la carte de la semaine. C'est une carte qui fait beaucoup parler d'elle en standard présentement, mais que je conseille à tout le monde de jouer dans les formats Commander puis Casual. Moi, je la joue même en moderne, à la grande surprise des gens que je bats 3-4 tours après avec. Donc, c'est The Flame of Keld.
C'est une saga, ça.
Oui, c'est une saga. La carte est sortie dans le set de Dominaria au printemps dernier.
Qu'est-ce qui était le fun de cette set-là?
Oui, donc c'est un enchantement qui... Saga, c'est une nouvelle mécanique que vous connaissez probablement. Un colorless, un rouge. Ça te permet de mettre Flame of Keld. Puis Flame of Keld, c'est un enchantement qui a une durée de vie de 3 tours. C'est-à-dire, le premier tour, quand tu la mets en jeu, tu discartes ta main. Donc, ce que tu avais dans ta main, tu le mets dans ton graveyard. Généralement, quand tu joues, vu que Flame of Keld, tu vas jouer ça dans un deck de rouge. Donc, généralement, tu as déjà plus de cartes dans tes mains.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est pas vraiment un problème. Moi, je la joue en moderne avec des cartes qui ont la mécanique Madness comme. Madness, c'est que la carte, quand tu la discartes, elle a un casting cost moins grand.
Oh wow.
Donc, tu peux la jouer à ce moment-là. Ça fait un genre de combo avec Flame of Keld. Après ça, le tour d'après, quand ça vient ton tour après que tu avais casté Flame of Keld, bon, tu sais, quand tu commences ton tour, tu piges ta carte. Mais Flame of Keld te permet d'en piger deux autres, donc tu piges 3 cartes.
What?
Donc, tu piges plein d'autres spells rouges que tu vas dépenser. Puis le troisième.
C'est là que c'est le fun.
C'est là que ça vient le fun. Le troisième chapitre, parce que les sagas, c'est des chapitres. Donc, à ton troisième tour que tu as casté Flame of Keld, toutes tes cartes rouges qui font du dégât, peu importe que ce soit sur des créatures ou sur un joueur, font 2 points de dégâts de plus. Fait que généralement, à ce moment-là, c'est là que j'ai tous mes gobelins sur le board, puis ça vient des 4-4 généralement. Ouais, ou des
4-1, parce que c'est plus de plus.
Ouais, généralement, ils ont un de toughness. Moi, ce que j'aime de Flame of Keld aussi, ça fait référence dans Alpha, c'est joué beaucoup à ça quand j'étais jeune, ben, j'aurais dû le mentionner dans nos personnages tantôt, c'est Keldon Warrior. deux colorless, deux rouges. Ça, c'est dans le premier set de Magic.
Sa force égale au nombre.
Deux colorless, deux rouges.
Oui,
c'est un warrior tout musclé.
Oui, oui, oui. Puis c'est XX, là.
C'est... Ben, c'est, non, c'est étoile-étoile.
Étoile-étoile.
C'est le nombre de créatures que t'as en jeu.
Ouais.
Fait que ça, c'est, ça a été créé, cette carte-là a été créée par Richard Garfield. C'est avec cette carte-là que tu joues plein de gobelins.
Puis encore une fois, il y a comme le mot qu'elle donne, ça a rapport.
Ben, le mot qu'elle donne n'avait pas rapport, c'est il y avait ça, besoin c'est... d'un nom qui fait barbare.
C'est ça. Mais c'est hot que le jeu aille continuer.
Le jeu a continué avec les histoires. Puis Flame of Kell, ce que ça représente, c'est que dans à peu près chaque set de Magic qui se passait sur Dominaria après ça, vu que le Keldon Warrior à l'époque avait tellement été populaire chez les joueurs rouges, ils ramenaient tout le temps les Keldon. Donc t'as une cinquantaine de cartes qui font référence au Keldon. C'est des barbares qui habitent dans le nord.
Dans les montagnes.
Puis, tu sais, c'est passé, là, c'est le bon vieux cliché, les Vikings vont tremper
ouais,
le
ouais, avec la vraie.
Puis, Flame of Kell, ben, dans le fond, c'est ce que ça fait référence, c'est dans l'histoire, c'est le premier chapitre que tu discartes ta main, ça, c'est le Ice Age. C'est les temps durs. T'as plus de ressources, t'as plus rien. Mais là, dans l'histoire, les Keldon, là, ils se sont mis à contrôler le feu. Ça, c'est quand tu piges deux cartes. Donc là, tu sais, ça, c'est la fin du Ice Age.
Tu ramènes du rouge aussi.
Puis le ça, troisième chapitre, ben, c'est on part en conquête. Ben, ça bouge toutes tes les cartes de rouge. Donc, c'était la carte de la semaine. Moi, je vous recommande de la jouer.
On peut-tu aussi noter le fait que c'est hot, les sagas?
Les sagas, c'est très hot parce que ça fait un lien
entre invention.
Les mécaniques puis l'histoire.
Ouais.
Petite anecdote là-dessus, quand que Dominaria est sorti, ça faisait une couple d'années que Richard Garfield n'avait pas travaillé sur des cartes Magic. Ils ont dit, bon, tu sais, Dominaria, c'est notre 25e.
T'attends-tu de revenir?
T'attends-tu de revenir?
T'es pour la gang.
Puis Richard Garfield a fait comme, OK, je vous amène une seule mécanique. Wow. Puis c'est la mécanique Saga. En fait, la mécanique Saga est inspirée beaucoup des board games. À mesure que la game avance, t'avances ton petit pion. Chaque numéro que t'es rendu va faire un effet différent.
Wow,
mais c'est comme, le Saga était inspiré de ça. Je pense qu'on va en voir de plus en plus, ça va revenir parce que ça permet de cash in sur la nostalgie des joueurs. Parce que toutes les cartes Saga, ça fait tout en référence à des vieilles cartes.
Ouais, ouais, ben c'est normal, là. Ouais. Saga, c'est l'histoire.
Ouais,
c'est l'histoire de Magic. Puis c'est vraiment des cartes fun qui sont le fun à jouer, j'aime la mécanique.
Ben ça amène une dynamique de. Il va se passer de quoi dans trois tours?
Oui, il va se passer de quoi.
Ouais.
Il va se passer de quoi là, il se passe de quoi demain, puis il se passe de quoi après-demain.
Ouais, c'est comme moi quand je joue Flame of Kell, trois tours, les gens ils savent que dans trois tours, il va falloir que ce soit.
T'es bébite, là, c'est ça. Là. Il y a comme une panique qui s'installe.
Je vous conseille de la jouer à vos genre 25 cents.
Puis, oui, là, j'ai bien aimé ton deck avec des gentils wizards dedans, puis les. Viachino qui font deux dommages quand ils arrivent en jeu, là. Un colorless.
Moi,
un
j'ai
rouge.
Gagné, j'ai gagné beaucoup de games avec ça pendant l'été, puis on va continuer.
Et voilà, c'était donc la carte de la semaine pour cette semaine. Ce qui nous amène à parler de différents types de decks.
Oui.
Je pense qu'on voulait jaser cette semaine. Vas-y, aborde.
Ben, généralement, ça, c'est pour ceux qui commencent à explorer là, l'histoire de Magic. Vous allez souvent voir ces termes-là revenir. Back in the days, dans les années 90, un deck, c'est un deck. T'sais, chaque deck n'avait pas vraiment de nom commun. Là. Mais maintenant, quand on dit qu'un joueur joue aggro, le terme aggro, c'est quelqu'un qui joue des decks rapides.
Ouais.
C'est vraiment, ça va être dans du rouge et du blanc.
Rouge, vert bleu. Aussi.
Vert des elfes. Là.
Ouais,
les,
c'est
les,
ça.
Les, ouais, les elfes, là, ce que t'aimes. Ouais,
parce que Tommy Godette haït les joueurs qui jouent des
elfes. Personne n'aime les elfes.
Bon, bref. Ça, c'est les decks d'aggro. Après ça, t'as les decks de, comme à l'extrême opposé, c'est les decks de contrôle. Donc, un deck de contrôle, c'est tu vas beaucoup jouer dans le bleu et le noir, tu vas détruire ce qui est sur la table, tu me counter, puis ton but, c'est de sauver du temps jusqu'à temps que tu es capable de caster ton finisher, c'est-à-dire la grosse visite qui va venir
ou de, d'installer ton combo.
Ou ton combo infini en loop.
Non, 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 faut pas faire de combo loop, ça détruit le fun du jeu.
Les gens qui font des decks de loop, ça, c'est même en Commander, il y en a beaucoup. Là.
C'est quoi ça, un deck de loop?
Un loop, là, c'est qu'une fois que tu as réussi à accomplir ton combo, la game finit là parce que tu as réussi à faire une succession de telles cartes.
Qui fait que tu peux avoir. Moi mettons, là, je n'ai fait un, puis je peux tuer 26 000 adversaires au quatrième tour la majorité du temps. Et le deck, c'est que je mets Enduring Renewal, c'est un enchantement qui vient de Ice Age. C'est deux blancs, deux colorless. Ce qui fait que tu joues la main ouverte et à toutes les fois que tu as un monstre qui meurt, tu le remets dans ta main. Puis si t'en piges un, ben tu le mets dans le graveyard. Avec un monstre qui coûte zéro en jeu, comme un
ornithopter,
et une grinding station qui fait que quand que tu castes une créature, tu l'untap et tu peux la taper pour le sacrifier une créature et faire un dommage où tu veux. comme là, je mets mon artefact, mon ornithopter en jeu, je tape ma grinding station, je la tape en sacrifiant mon ornithopter qui retourne dans ma main, je fais un dommage où je veux, là je peux la remettre parce qu'elle retourne dans ma main, et ainsi de suite. Fait que là, je peux comme faire 26 000 de dommages.
Mais ça, ces loops-là, sont-ils interdits?
Non, ils sont pas interdits, puis ils sont joués en moderne, puis ça, t'as des...
Mais pas en standard, généralement.
Non, en standard, il y a des decks qui réussissent à faire un loop. Mais le problème, c'est que ça scrape le fun de tout le monde autour de la table.
Ouais, c'est dans le jeu.
Faire,
c'est ça. Je me rappelle une game à un moment donné dans le temps, on s'est dit ok, on va jouer une game à 14. On était 14 et on a limité la portée de nos spells à 3 joueurs de chaque bord. On jouait, ok, mettons on était 2 de chaque bord, puis là ils jouaient leur phase en même temps. Untap, upkeep, draw, blablabla. Et à un moment donné, il y en a un qui a fait une crosse avec un palincron. Et un palincron, c'est une carte de Urza Saga. Ça coûte, je pense, c'est 2 bleus, 3 colorless. Et tu peux payer 4 pour le remettre dans ta main. 2 bleus, 2 colorless pour le remettre dans ta main. L'affaire, c'est que quand tu le castes, il y a une tape aussi toutes les landes. Fait qu'en tout cas, ça fait que si t'es capable de faire que tes landes valent le double...
C'est un
4-5 en plus. Ouais, c'est un 4-5. Tu gagnes un mana à toutes les fois que tu le remets dans ta main puis tu le remets. C'est assez facile de faire que tes îles valent le double pour un tour.
Ça, on a parlé dans l'épisode, ça vient de Urza Saga.
Et voilà,
que t'es mal élevé.
Puis là, tu te ramasses avec mana infini assez facilement, puis tout le monde trouve ça plate. Là. Cette game-là, à 14, on était dedans, on était tous hypés, on pensait que ça pouvait durer pour des heures. Ça a duré 15 minutes, parce que l'autre, il a fait un combo plate, puis on lui a dit « Félicitations, t'as gagné. » T'as gagné, mais t'as gâché le fun de tout le monde. Fait que c'est ça. Ça tue Magic, les loops, moi, je pense. Le plus gros problème du jeu, c'est les casting costs de zéro.
Ouais, ça, c'est une raison pourquoi Wizard, quand ils ont sorti Zendikar avec les colorless, là, il paraît qu'un des sets les plus broken, c'est Mirrodin, parce que la mécanique était basée sur les artefacts.
Ouais.
Puis les artefacts, tu peux jouer ça dans toutes les couleurs. Fait que tu perds, dans le fond, les désavantages de chaque couleur qui faisait que ça balançait. Les choses qu'on va voir de moins en moins, c'est du colorless fall.
Ouais.
Puis, une affaire qu'ils veulent enlever, puis je trouvais ça intéressant, c'est chercher dans la librairie. Puis...
Ah, pour tel item ou telle chose.
Ouais,
telle
mais c'est la raison pour qu'ils ont enlevé ça, c'est qu'ils veulent limiter le temps. Tu sais, parce que faut que tu fouilles, faut que tu brasses. Il y avait un panel sur YouTube là-dessus, d'un des gars qui joue Magic. Là. Il disait un des handicaps pour les joueurs qui commencent à jouer à Magic, ça a l'air niaiseux, mais c'est brasser le deck, puis bien brasser le deck.
Ouais.
Puis c'est quand même. Nous, on est habitués parce que ça fait trop longtemps qu'on joue, là, mais c'est que quand t'es pas habitué de brasser un deck. Ben, ça peut quand même être complexe. À moins que tu pailles le
champ. J'en parle souvent du draft que j'ai gagné.
Oh,
t'avais mal brassé?
Il y a un coup que j'avais mal brassé. Fait que ça a comme...
Ça
a ressorti de croche. Non, mais il manquait des laines parce que mes laines ont été mal brassées.
Il était pogné.
Et voilà.
Fait que là, tu sais, ils veulent réduire le...
Puis souvent aussi, il y a des cartes, je me rappelle... Mettons le Jester's Cap de Ice Age, tu le sacrifies, qu'il coûte 4, tu le manges, tu payes 3, tu le sacrifies, puis là tu peux aller chercher 3 cartes dans 3 le library cartes. De l'autre dans et les exiler.
Ouais.
Mais c'est parce que là, c'est long. Là, tu check tout le jeu
de l'autre au complet,
puis aller me faire à souper, j'en reviens tantôt.
Aller faire à souper, j'en reviens que t'as retrouvé qu'est-ce que t'enlèves.
Puis là, t'enlèves juste 3, en tout cas.
C'est vrai que c'est long.
Moi, je comprends, mais en même temps, c'est...
Mais ça brise la mécanique.
C'est un avantage du noir, ça, de pouvoir aller chercher ses affaires.
Et il va développer les avantages. On continue.
On y croit. Donc là, on parlait de deck, t'as parlé d'aggro.
Ouais, les contrôles.
T'as parlé de contrôle.
Puis, justement, ils vont dire, vous allez voir mid-range, mid-range, c'est un mélange des deux.
Ben, pas mal tout le monde fait ça, à rigueur.
Ouais. Fait que ça, c'est les types de decks. Après ça, il va y avoir des noms selon les couleurs qui viennent notamment de Ravnica. Parce que comme on avait dit, Ravnica,
Boros, c'est rouge-blanc.
Ben, c'est ça, quand tu entends le mot Boros, ben, tu sais que le gars, il joue rouge-blanc. Dimir, c'est bleu et noir. Izzet, c'est rouge.
Moi, je le dis souvent, là, mais je trouve que le nom de guild, ça sonne tellement. Là, ça...
Comme j'avais dit tout à l'heure.
Simic, c'est bleu-vert, ça fait. Je sais pas.
Les trois couleurs, là, ils ont leur nom. J'avais dit Grixis tantôt. Bent, c'est blanc et bleu et vert. Esper, c'est noir, blanc et bleu. Moi, quand ces noms-là ont commencé à être répandus, c'est quand j'avais recommencé à jouer à Magic en 2014 après avoir arrêté pendant 15 ans. J'étais vraiment perdu parce que je voyais partout, c'était écrit Esper Control, Esper Control, Esper Control. J'ai dit, c'est qui ça, Esper?
Pourquoi tout le monde veut le contrôler?
Esper? Mais une fois que t'as compris ces noms-là, ça simplifie.
Ouais,
ça t'aide beaucoup après ça quand tu fais tes recherches Google pour des idées de deck.
C'est
des termes techniques.
Oui.
Ce que je trouve tôt, c'est des termes techniques qui ont rapport avec le lore, tu sais, dans le fond. Tu sais, quelqu'un qui va jouer Esper. Ben, c'est du noir, du bleu puis du blanc. tu sais qu'il va aller jouer dans le graveyard. Tu vas te faire counter tes spells, ça c'est le bleu.
Ouais.
Puis
souvent, il va avoir des
artefacts. Le blanc, il va te faire un Wrath of God ou il va sortir une grosse bébé blanche qui coûte 6 à caster, whatever, tu sais. Ou il va
avoir chroma, une partie...
Ouais, tu sais. Fait que c'est ça, une fois que t'as compris ces noms-là, après ça, tu sais, si t'as fait une référence que t'es capable de savoir tout de suite à quoi t'attendre, puis là, tu fais quand, ok, ouais. Puis là, tu sais, bien souvent, tu vois que quand quelqu'un joue telle carte, à moins que tu joues contre Tommy Goddard, parce que Tommy Goddard, tu fais des lectures. Mais quand quelqu'un joue telle carte, tu peux t'attendre à un moment donné, tu vas avoir telle autre carte qui va s'en venir. Ouais,
c'est ça. Puis sinon, ben, il y a les Winnie Blank. Faut tout
faire. Ah, mais ça, c'est simple. C'est un oiseau, un flying qui coûte un. Puis à le tour 2, tu mets un White Knight, qui coûte deux blancs, deux c'est strike. Et,
troisième, trois. Ouais.
L'aspect qui est important quand tu drafts, entre autres, il y a pas ça la curve.
Ouais.
C'est que tu veux tout le temps. Premier tour, tu mets un land.
Tu sais, quand tu joues aggro. Tu toutes tes lands à chaque tour.
Premier tour, possible. Tu joues un land, tu casses une affaire qui coûte 1. Deuxième tour, tu mets un deuxième land. Moi, c'est pour ça que je garde tout. Tu sais, quand on pige nos 7-4, moi, s'il n'y a pas deux lands dans ma main, je garde pas la main. Ça, c'est ma règle là.
Ben ouais, c'est
le minimum. Je garde pas une main à un land. Fait que, tu sais, tour 2, tu veux mettre deux lands, tu veux jouer une carte qui coûte 2 ou deux cartes qui coûtent 1. Troisième tour, tu veux jouer 3 lands, tu vas jouer et ainsi de suite. Ton deck, quand tu vas le construire, faut que tu respectes. Telle affaire, puis ça va être plus facile quand tu vas jouer dans du vert, mais sans blanc. Mettons, tu joues du vert et du noir, là tu vas faire un deck mid-range, tu sais que tu vas vouloir peut-être 24 lands, 25 lands, ça c'est un deck de 64.
C'est beaucoup. C'est beaucoup de lands.
Mais tu manques jamais de lands.
Ouais, mais ça on veut pas en manquer. Idéalement, tu trouves une manière de t'en débarrasser. Puis,
parce que des fois, les autres ils vont détruire tes lands, tu sais.
Ça arrive très rarement.
Ça arrive très rarement, c'est, y en a de moins en moins. C'est ça, parce que ça scrape le fun. Parce que si tu peux plus rien jouer.
Ben là, t'y gagnes, c'est le fun.
Oui, mais je veux dire, comme. Tu avais Sinkhole dans
c'est un jeu,
Noir,
là.
Dans Alpha, c'est deux Noirs, Sorcery, Destroy Target Land. Ouais. Ça, tu vois plus ça,
Star. Là, il est dans mon deck de chien.
Ouais. Généralement, détruire des lands, ça va coûter deux colorless, un rouge, Destroy Target Land.
Ouais, c'est pas mal le prix standard. Puis sinon, d'autres types de decks, toi, Andy.
Oh boy, j'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus. Du moins, j'ai surtout pas de nom là-dessus.
Ben,
on a parlé un petit peu en parlant des formats aussi, quand on parlait de.
Ça va revenir souvent, c'est pour ça que je voulais le mentionner.
Okay.
C'est des termes qu'on va souvent utiliser.
Ouais, quand même, mettons.
Aggro.
On peut peut-être faire le tour.
Moi, je pense que tous les joueurs de Magic ont déjà entendu aggro.
Ben, tous les joueurs d'RPG, MMORPG, puis tout ça.
Ouais,
c'est de là que ça vient, justement. De
World of Warcraft. Qui attire la haine, là.
Merci World of Warcraft pour avoir inventé aggro.
Ah, je sais pas si c'est eux autres qui ont inventé ça.
Non, je pense que je l'ai vu avant World of Warcraft.
Avant ça, je pense en fait c'est.
Les années 90, on parlait aggro quand on parlait des decks.
C'est Guillaume le Conquérant, je pense.
Oui, c'est clairement. William.
Peut-être qu'on peut tout de suite se lancer dans un autre sujet.
Choisis ton sujet.
Vas-y pour les Planeswalkers.
Ça, c'est intéressant parce que moi, ce que j'aimais dans les anciennes histoires de Magic. C'est quoi un Planeswalker? Quand ils ont créé Magic, ils se sont dit un joueur.
Arrête, c'est quoi un Planeswalker?
Un joueur, c'est qu'un Planeswalker. Okay, donc, quand tu joues à Magic, à la base, dans les années 90, c'était écrit dans les fluffs, les petits guides là, quand tu achetais ton starter, ça te disait t'es un Planeswalker qui fait des duels contre un autre Planeswalker. Ouais, c'est-à-dire, un plan, c'est comme une planète, c'est une réalité, un univers.
On est dans différentes réalités. Ouais,
donc, tu es capable de traverser ces planètes-là avec ta magie. Puis là, sont très rares les Planeswalkers. Puis, pour une raison qui explique mal, parce que c'est un jeu de combat, tu sais, quand un Planeswalker rencontre un Planeswalker, ça se passe généralement mal.
Ouais.
Puis, parce que dans le fond, ils veulent se péter la gueule, un peu comme les Highlanders, dans le fond, dans les films de Highlander.
Okay, il ne peut qu'en avoir. Hein.
Dans le fond, tu sais, comme
les Highlanders.
Quand tu joues une game de Magic, que tu poses ta forêt, tu tapes ta forêt, dans le fond, c'est que tu as pris l'énergie magique de la forêt, puis là, tu fais apparaître un Llanowar Elf, c'est un elfe, un vert qui coûte un vert. Puis tu peux le taper pour produire un mana vert. Dans le fond, le Planeswalker, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé l'énergie de la forêt pour prendre dans la forêt de Llanowar un elfe au hasard là-dessus. Puis là, avec sa magie, il le force à se battre pour lui.
Okay, il l'a téléporté de là-bas.
Ouais, c'est ça, un summon. Okay. Le mot summon,
c'est pour
le verbe
invoquer.
Si tu le fais apparaître devant toi. Moi, ce que je trouvais intéressant dans les anciennes histoires de Magic, c'est tout le temps les Planeswalkers sont des psychopathes.
Ouais.
Parce que dans le fond, tu fais battre des elfes, des anges, des gobelins ensemble. Ils sont pas consentants. Puis c'était tout le temps, même quand tu lisais les romans Magic, ça, je mets tout le temps cet aspect-là que c'est tout le temps comme le héros principal, c'est le dude dans son village. qui a une vie normale, genre il est bûcheron. Ça, c'est le premier roman de Magic.
Oui,
là,
oui, je me rappelle.
C'est un bûcheron puis, dans son village.
Même le jeu vidéo, là.
Oui, les jeux vidéo. C'est ça que Magic, en termes d'histoire, veut représenter. Ouais. T'es le péon dans le village, puis là, soudainement, comme il y a un dude, un magicien, Gandalf, passe dans ton village, t'as une conversation avec, tu penses que c'est juste un vieillard sur les grands chemins, tu sais. Là, il s'en va. Puis là, 12 ans plus tard, là, t'es sur le bord de ta retraite, whatever, puis là, soudainement, là, t'es arraché de ta réalité, puis tu réapparais au milieu d'un champ de bataille. T'es obligé de te battre pour ce dude-là qui était passé dans ton village back in the days, puis tu te rends compte qu'en réalité c'est Nicole Bolas, un dragon qui était déguisé en.
Hey, pas cool!
Fait que moi j'aimais cet aspect-là.
Mais pourquoi t'es obligé de te battre pour?
Parce que dans le jeu vidéo Duels,
tu commences ton training, c'est justement les 5 Planeswalker qu'on connaît un petit peu plus, qui ont des
c'est
historiques.
Quoi, ça, c'est Jace,
Jace, Chandra, Liliana, Nissa, puis un autre. Le blanc, là.
Le blanc, c'est Ajani, je pense.
Mais tu sais, c'est comme, tu voyais comme une historique autour, mettons, Liliana au début était comme, c'est une cleric. Pour essayer de ressusciter son frère, est allé dans les forces obscures.
Ah, ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est... j'aime ça en apprendre.
Fait que là, on apprend comme Jael, qui est un Jace, qui était un manipulateur du temps. Mais là, tu vois comme son historique un petit peu. Mais c'était cute, là, c'était amené dans des combats.
Puis dans l'histoire, c'est ça, les Painwalkers, généralement, c'est un traumatisme qui déclenche. Un traumatisme.
Le Spark, là.
Il appelle ça le Spark. Là, on prend Liliana, qui est la Planeswalker la plus connue, dans le noir. En fait, c'est une Samhite Healer, la carte blanche dans Alpha.
Ouais.
Fait qu'elle est membre d'un ordre de guérisseurs, c'est la magie blanche, on guérit. Puis là, à un moment donné, son frère, il s'est fait blesser dans une bataille. Elle avait été tentée par le côté obscur, bref, le noir. Elle avait trouvé, je pense, un grimoire. Puis, elle est dans la magie noire, mais c'est dans le fond, c'est vraiment du graveyard. Fait que là, elle essaye ce spell-là pour ressusciter son frère, mais ça le tourne en zombie. Puis ça la frappe tellement que c'est là que son spark ignite. Puis là, elle devient une espèce de sorcière obsédée.
C'est super tragique comme histoire.
Ouais, et puis Liliana, son histoire, c'est ça. C'est, elle devient une espèce de sorcière obsédée par une peur de la mort. Parce que c'est son côté healer, tu sais.
Exact.
Puis, à un moment donné, elle se rend compte qu'elle est en train de vieillir, fait qu'elle fait un pack avec 4 démons.
Oui, exact, c'est ça. Puis ça, dans le jeu, tu te bats contre les 4 démons.
Mais c'est dans les 7, ça, hein, parce que dans toutes les 7 que Liliana a après, tu as de la carte démonique pack.
Ouais, c'est ça,
ça que ça représente. Mm. Demonic Pack, c'est un enchantement qui coûte 2 colorless, 2 noirs. Tu vois Liliana sur le dessin.
C'est le fun qu'on est en train de jaser de ça, puis c'est tout est dans tout. Là.
Tout est dans tout.
Oui, c'est super
le
cool.
Demonic Pack, t'as 3 choix. C'est un enchantement, puis là, à chaque tour, faut que tu fasses un choix. Fait que là, tu peux choisir, par exemple, piger 2 cartes, ou Destroy Target Creature, or You Lose the Game.
T'as pas le choix
d'en faire
un. La carte
te dit qu'à chaque tour, faut t'en choisir un.
Ok, fait que si t'as la manche pour la sacrifier, cette carte-là, avant.
Ou la retourner dans tes mains pour l'en jouer, t'sais. Là, dans le storyline, Liliana Vest, ça fait un pack avec 4 démons. C'est Nicole Bolas, en fait, qui la manipule pour dire « Hey, fais un pack, je connais 4 démons sur
mais là, moi, je veux pas qu'on aille trop loin.
Ouais, j'avoue que ça pourrait être une belle épisode.
Particulièrement
sur
chaque Planeswalker.
Mais je voulais juste qu'on... montrer comment les histoires des Planeswalkers sont deep. Parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné, on a tout le temps fait que c'est le joueur qui est le
Planeswalker. Qui est un Planeswalker,
mais là, les joueurs, ils me demandaient souvent, vu que dans le storyline, ils mettaient Nicole Bolas, ils mettaient Urza, qui est un Planeswalker, mais il n'y avait jamais la carte Planeswalker, parce que Magic se disait, ben là, tu sais, comme il n'y aura pas de carte qui est un Planeswalker, parce qu'un Planeswalker,
parce qu'on
c'est
est
un joueur.
Des Planeswalkers,
ces personnages-là sont juste là pour faire avancer l'histoire. Pis t'sais. Mais là, à un moment donné, ils se sont dit, ouais, tiens, on va faire du cash. T'sais. Ils se sont mis à faire des cartes Planeswalker. Le type de carte
ben ça s'explique bien diégésement par contre.
Oui, totalement. Puis ils se sont même forcés dans le storyline pour justifier pourquoi il y a des Planeswalkers qui sont sur une carte, alors que dans les anciens storylines, c'était des personnages omnipotents, qui sont comme des dieux, tu sais, comme j'avais décrit là, que quelqu'un un Planeswalker fait un duel contre un autre Planeswalker, ben ça détruit
c'est
la moitié
épique,
du
là,
pays,
ouais, c'est ça,
c'est épique là, tu sais, il y a même des batailles de des armées de l'autre bout de l'univers puis ça, tu sais. Ils sont tout le temps présentés un peu comme ils sont tellement puissants qu'ils sont comme full corrompus puis maniaques, tu sais. Urza, c'est le meilleur exemple, là. Urza, c'est le running gag dans les histoires, c'est Urza, chaque affaire qu'il fait, ça vire tout le temps mal. Puis un des trucs, en fait, c'est que Urza, il y a un moment donné dans Urza Saga, justement, il se met à gosser dans le temps, il se met à faire des voyages dans le temps.
Je pense que c'est un petit peu comme Saruman, lui,
ouais, mais le personnage Planeswalker de Karn, vous avez peut-être déjà vu la carte, c'est un golem d'argent. Mais dans le storyline, Karn a été créé, c'est Urza qui veut une time machine, mais qui est capable de penser, fait que dans le fond, il crée un golem qui voyage dans le temps. Puis là, il se rend compte que la seule matière qui est capable de voyager dans le temps, c'est l'argent. C'est un golem d'argent. Fait que tu sais, ça, c'est dans le storyline. Mais là, à un moment donné, ils se sont dit, ça faisait des personnages trop forts qui étaient difficiles à justifier qu'une carte. Parce que tu pourras pas tuer Urza, tu sais.
Non, il sentait devenu potent.
Fait qu'à un moment donné, ils ont fait le set de Time Spiral, ouais. Sorti en 2007.
Ça a été solide, ça.
Ouais. Le set de Time Spiral, c'était pour justifier l'arrivée des Planeswalkers en format de 4. L'histoire dans Time Spiral, c'est que les Planeswalkers, avec leur duel, ils ont tellement fucké tout que maintenant, même le temps.
Est plus linéaire.
C'est pour ça que dans le set de Time Spiral, t'as des vieilles cartes.
Ouais, qui sont refaites autrement. Qui sont refaites.
Comme
Wheel of Fortune qui est devenu Wheel of Fate.
Fait que là, tu sais, le setting, c'est ça. C'est que là, c'est
suspend aussi. Fait qu'il y a des affaires qui sont en dehors du temps. Fait que même les pouvoirs, les dynamiques ont rapport avec ça.
T'as le personnage Teferi qui est un Planeswalker, qui vient du Mirage. Puis Nicole Bolas, ils font un deal. Puis là, ils disent, OK, on va régler ce problème-là. Fait que là, toute la set, c'est leur long quest.
Ça, on va revenir la
prochaine fois. On va y arriver, mais je voulais juste arriver que la conclusion de ça, c'est qu'ils ont réussi à remettre le temps correctement.
Merci Nicole Beaulah.
Mais la conséquence de ça, c'est que ça les a toutes dépowered.
Bon.
Fait qu'ils sont plus comme des entités. Ils ont des faiblesses maintenant.
Ils ont les mêmes pouvoirs qu'avant, mais
carte d'un Planeswalker, ce que ça représente, la carte de Planeswalker n'est pas une créature, c'est un permanent, c'est un enchantement. Puis elle a des points de loyauté. Puis chaque mécanique, c'est un point de loyauté que tu y ajoutes ou que tu soustrais les points de loyauté.
C'est comme un joueur qui devient ton chum.
Dans le fond, c'est un joueur qui devient ton chum. Puis là, tu invoques Nicole Bolas, il vient se battre pour toi.
C'est rare que ça arrive, il coûte cher.
Il t'a coûté cher à amener.
Mais c'est une association, dans le fond. Ça devient... Moi, c'est le même que je voyais ça. Je vois ça comme une association, comme hey man, on attaque-tu ensemble.
Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que si tu l'utilises mal, il perd des points de loyauté.
Exact.
Puis à un moment donné, c'est pas qu'il meurt, c'est que ça, c'est la mécanique. C'est comme ça qu'ils ont réussi à justifier.
Ouais, c'est une belle
je trouve ça intéressant comment ils ont justifié. Puis là, les 4 Planeswalkers, c'est devenu des incontournables. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps des mythiques rares généralement dans les sets.
Ouais,
c'est quand même fort. Ça permet de porter l'histoire de Magic.
Et ça ne scrape pas le jeu. C'est ça qui est important.
On parlait des formats de deck avant aussi. Souvent, c'est des cartes qui viennent très bien complémentariser des formats de deck comme ça. C'est très très bonne idée d'avancement pour le jeu, c'est sûr et certain. Je pense qu'on finit là-dessus pour cette semaine. On aura parlé des Planeswalkers. On va revenir plus en particulier parce que moi, l'histoire de chacun, c'est facile. Et je les connais très mal. Peut-être au prochain épisode, on reviendra sur chacun des 5 principaux. On a parlé de Liliana, mais Jace, c'est mon préféré. Fait que, merci beaucoup, Andy.
Un plaisir.
Jason.
Donc, si vous avez bien aimé ce que vous avez entendu, invitez vos amis à liker la page de Terrain Basique, B-A-S-I-Q-U-E. Et likez notre page. On compte sortir un épisode à chaque semaine. À la semaine prochaine.
Et voilà. Merci beaucoup.
Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.